suis, je suis syndicaliste à la CGT, je suis infirmier psy et cadre de santé. Et je travaille à DM, pardon. D'abord pour la situation actuelle pour les soignants et aussi pour les médecins, c'est la situation catastrophique qu'on a dans les hôpitaux et particulièrement ces dernières semaines dans les services d'urgence. Vous savez qu'il y a un afflux dans les services d'urgence, qu'il y a des problèmes de personnel, qu'il y a des problèmes de disponibilité de lits, qu'il y a des problèmes de matériel. C'est le cas dans plein d'hôpitaux et dans celui où je travaille. Les collègues, ils utilisent la formule suivante. Quand il y a des brancards partout, des patients qu'on a du mal à orienter, à prendre en charge, avec des attentes pas possibles, ils disent c'est Beyrouth. Ce qui est un bon résumé de la situation, mais aussi des difficultés qu'il y a à l'hôpital. Et je voulais dire à propos de ce qu'il y a dans les urgences, je voulais vous citer ce qu'ont écrit des collègues de Saint-Julien, des services de Saint-Julien, l'hôpital de Quevilly. Ils se plaignent, ils sont confrontés au fait qu'il y a eu diminution de lits dans leur hôpital, qu'avec l'afflux de patients avec la grippe, il faut bien arriver à les accueillir tous, qu'on leur a rajouté des lits dans leur service. Ils disent la chose suivante. Il y a des difficultés dans la capacité de telle chambre parce qu'elle est tellement étroite, comme on a rajouté des lits, que les agents sont obligés de déplacer un lit pour se rendre au chevet de l'autre patient et n'ont pas la possibilité que les deux familles soient en même temps dans la chambre. Les agents déplorent les conditions de travail car s'ajoute à leurs difficultés le manque de matériel, de linge, de pilulier et de fait court dans les autres services. Sans parler des prises en charge des patients qui pour certains sont en fin de vie et souhaiteraient être seuls dans leur chambre et se retrouvent à deux. C'est des choses très, très concrètes qui sont posées. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne on est au cœur des problèmes, c'est-à-dire on sait ce que nous voulons faire, nous voulons soigner. C'est pour ça qu'on est formé ou qu'on continue de se former. Mais est-ce que c'est ce qui nous est demandé par les responsables du pays et par les responsables du système de santé ? Pour me faire comprendre, je voudrais citer des responsables de l'ARS Normandie, donc qui représente d'une certaine forme le ministère de la Santé, et qui sont présents en général dans les conseils de surveillance des hôpitaux. Actuellement, il y a une discussion dans chaque hôpital sur la question des budgets, puisque les budgets 2017 sont en train d'être donnés aux hôpitaux, qui sont en réduction et sont à peu près partout insuffisants. Et dans mon hôpital, le représentant de l'ARS a expliqué la chose suivante. Il parlait du budget en baisse, il s'agit d'une situation voulue par le politique, situation qui est celle de mettre sous pression les établissements dans le contexte d'une recomposition progressive, d'un changement des pratiques. Dans ce cadre, les tarifs ont un impact sur le fonctionnement, il s'agit d'un levier utilisé par le politique, il y a une action politique ad hoc qui est décidée et chaque chaînon a vocation à le mettre en œuvre. Il s'adressait à tous les membres du conseil de surveillance, donc il s'adressait aux médecins, aux directeurs, aux élus, il disait « chaque chaînon a vocation à mettre ça en œuvre ». Je lui ai fait repréciser ce qu'il entendait par les chaînons, parce que ça voudrait dire qu'on est nous-mêmes, pas seulement les exécutants, ceux qui doivent prendre en charge totalement et presque revendiquer ce que demande le ministère. Il a précisé les choses, il a dit « chaque acteur de santé » dans son domaine de compétences, a vocation à mettre en œuvre la politique nationale en tenant compte des difficultés, des contraintes. C'est un devoir citoyen. Bon, c'est assez clair, hein. Ça veut dire que le conseil de surveillance doit être l'ordonnateur des réductions, ce que lui demande le ministère politiquement, mais aussi chaque directeur, mais aussi chaque médecin, chaque infirmier, chaque aide-soignant, chaque psychologue, je vais continuer comme ça. Et donc, à partir de là, il faut regardez plus précisément ce qui est demandé par le ministère de la Santé. Alors, le ministère de la Santé, ce qui nous est demandé a été donné par Madame Touraine, qui, quand elle a précisé ce qu'elle voulait mettre dans la loi santé, qui ensuite a été votée, le 4 février 2015, elle a expliqué là où il fallait aller. D'abord, elle a dit, c'est son discours, hein, il a été prévu 10 milliards d'euros d'économies d'ici 2017 pour l'assurance maladie. Le cadre est donné, il s'agit avant tout de faire des économies. Pour ça, elle dit, il faut engager des réformes structurelles. Bon, là, ça reste encore vague. Après, elle précise, c'est l'obligation de tous les hôpitaux d'être dans un GHT à partir du 1er juillet 2016. Hein, que 100% des établissements publics soient engagés avec succès dans un GHT, un groupement hospitalier territoire, pur pour mutualiser leurs activités et définir un projet médical commun. C'est une mesure forte. Et la deuxième chose, j'y reviendrai sur les GHT, la deuxième chose sur laquelle elle insiste énormément, c'est la nécessité de fermer des lits, c'est ce qu'ils appellent le virage ambulatoire. Bon, je fais un aparté là-dessus, j'y reviendrai, mais sur le virage ambulatoire et la fermeture de lits, ben c'est précisément la catastrophe qu'on a actuellement. Il y a des patients dans tous les services d'urgence, et il n'y a pas les lits pour savoir où est-ce qu'ils devraient aller. Il y a le même problème en psychiatrie, par exemple. Sur les GHT, je ne peux pas développer sur leur... C'est une arme de destruction massive des hôpitaux, les GHT. Je ne peux pas développer tous les aspects. Vous savez qu'on est passé de 850 établissements à 135 avec ces regroupements. Mais je voudrais souligner deux aspects. Le Rouvray, l'hôpital du Rouvray, l'hôpital psychiatrique du Rouvray, a été rattaché au CHU. À partir de là, il n'y a plus de projet médical pour l'hôpital du Rouvray. Puisque le projet médical sera défini par les médecins du CHU. C'est pas un détail, quand même. On peut penser du bien ou du mal de tel ou tel projet médical. Mais il y avait encore un projet médical qui était défini par les psychiatres, qui était orienté sur la prise en charge en psychiatrie. Il n'y en a plus. Puisqu'au 1er juillet 2017, devra avoir été élaboré le projet médical du GHT autour du CHU. Quand un président de CME accepte ça, c'est le cas du président de la CME du Rouvray, il accepte de se faire le chaînon de ce que lui demande le ministère. Les GHT, Mme Tourette, quand elle le définit dans son discours, elle dit que ça va servir à mutualiser. Hein, ça peut rester vague, là. Mais ça veut dire surtout ce qu'ils appellent supprimer les doublons. C'est-à-dire si au sein d'un même GHT, vous avez deux fois, je ne sais pas quoi, tel service, ça vous permet de le remettre en cause. Ça a été très vite. Ils ont fait les GHT le 1er juillet 2016. Le 14 novembre, sur le site de l'ARS, vous pourrez le trouver si vous le cherchez, ils ont indiqué que tous les services d'urgence de Normandie, aux alentours de 10 000 passages par an, doivent être revus pour en faire des services ouverts 10 heures par jour, sans médecin, et ouverts du lundi au vendredi. Voilà, c'est une directive de l'ARS du 14 novembre, en prenant exemple sur Aulnay-sur-Odon et Valognes, je crois. Et après, on nous dit, oui, il y a une catastrophe dans les services d'urgence. Ah oui, si on ferme les services d'urgence et si on ferme les lits, il y a une catastrophe dans les services d'urgence. Mais ça veut dire quand même, je reviens à qu'est-ce qui nous est demandé par les responsables de santé, ils sont quand même en train de nous dire qu'il faut refuser les patients. Puisqu'ils organisent la fermeture de lits et ils organisent les fermetures des urgences. Ils organisent le fait que le patient ne puisse plus se présenter à l'hôpital, ne puisse plus rentrer à l'hôpital, ne puisse plus être soigné, ne puisse plus avoir un lit qui lui soit proposé quand c'est nécessaire. Et la psychiatrie est particulièrement visée parce que Marie-Hélène Dauguet en a parlé tout à l'heure, la loi Touraine a un complément qui cible la psychiatrie, qui est le rapport Lafourcade. Alors, M. Lafourcade est un homme intelligent puisqu'il est directeur de l'ARS. Et il a écrit cette phrase intelligente au début de son rapport. Mieux vaut bien vivre sans être guéri qu'enfermé dans le soin en attendant une guérison qui ne viendra pas. Alors, écoutez, on écoute la phrase, on se dit, il y a un truc qui cloche. Mais peut-être on ne voit pas où est-ce que ça cloche. Alors, supposons, on supprime les trains. Je vais vous la redire, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Est-ce qu'on peut prendre le train? Bon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester chez soi et ne pas voyager qu'aller à une gare où on a supprimé les trains? Oui, ça se tient, la phrase se tient. La phrase se tient, mais peut-être que ça serait bien de ne pas être enfermé chez soi. Et rétablir des trains, et ça aurait un sens d'aller à la gare. Bon, mais faites attention quand même, la phrase, elle dit, elle parle du soin. Elle dit enfermé dans le soin. Nous, on a plutôt le sentiment que les patients sont enfermés dans leur souffrance, enfermés. Il y a un côté enfermement de la maladie, et c'est à ça qu'on répond. Là, on nous dit que c'est le soin qui enferme. Alors, je vais vous relire la phrase, mais vous la trouverez en page 9 du rapport de M. Lafourcade. Mieux vaut bien vivre sans être guéri qu'enfermé dans le soin en attendant une guérison qui ne viendra pas. Mais M. Lafourcade a déclaré d'autres choses. Alors, je ne vais faire que deux citations, parce que sinon ça serait trop long, parce qu'il a expliqué un peu la difficulté qu'on a en psychiatrie, parce que tout n'est pas génétique. Pardon. Donc il explique. Je vais être trop long. Enfin bon, vous regarderez dans le rapport Lafourcade, il explique que c'est bien, il y a des marqueurs génétiques, c'est bien, il y a des tests biologiques, mais il reste une part quand même, et c'est bien malheureux, qui sont livrés à l'appréciation d'entretiens, de psychologues, de psychiatres. Et c'est ça qui rend très difficile les économies qu'il faut réaliser. Je vais pas être plus long sur le rapport Lafourcade, mais tout ça, à la fin, c'est quand même pour discuter des économies qu'il faut réaliser aujourd'hui en psychiatrie. Évidemment, à partir du moment où on se fixe de ne plus soigner, enfin, c'est dans l'autre sens. Tout ça n'est que du baratin, puisque cet homme est quand même intelligent. C'est à partir du moment où il faut moins dépenser, et sur quoi ? Surtout pas dépenser en psychiatrie, bah, on trouve n'importe quelle phrase aussi intelligente que ceux de faire, M. Lafourcade. Il y en a d'autres, je vous en citerai une autre tout à l'heure. Dans le rapport Lafourcade, et ça c'est plus dangereux que simplement... ça fait froid dans le dos. Il explique qu'il faut remettre en cause, mais comme il est intelligent, il ne dit pas comme ça, le travail de secteur. Alors ils disent qu'il faut un secteur rénové. Mais ce n'est plus du soin, ce n'est plus une volonté de soigner quand vous regardez ce qui est écrit. Ils avancent ce concept d'inclusion. Ce qui permettra de soigner, ça sera l'inclusion. L'inclusion, on pense, vous savez, les petits insectes là qui sont... inclus dans des blocs de je sais pas quoi. Bon, c'est ça, c'est-à-dire c'est plus soigner le patient et prendre en charge, c'est le contrôle social. C'est le contrôle social. Bon, il y a tout ça, mais le fond du fond, c'est quand même la réduction terrible des possibilités de soigner en psychiatrie, puisqu'on est passé de 120 000 lits en 1980 à 55 912, et qu'il y a un manque terrible de lits, qui fait que, pour prendre des exemples très concrets, à l'hôpital du Rouvray, au CH du Rouvray, ils ont mis en place une cellule de suroccupation qui devrait être déclenchée quand on ne trouve plus de lit. Elle est déclenchée chaque semaine. Elle vise à ouvrir en supplément dans chaque unité un lit, voire jusqu'à trois lits. Alors là, ils appellent ça des sub-sub, des occupations supplémentaires. Et c'est la réalité quotidienne de l'hôpital du Rouvray. Donc après, on nous raconte des faits divers dans le pays, etc., tout ce que vous voulez. Oui, mais les soignants, les médecins sont bien confrontés au fait qu'on ne peut plus accueillir ce qu'on estime nécessaire, enfin, plus accueillir les patients pour lesquels on estime qu'une hospitalisation est nécessaire. À Dieppe, l'hôpital où je travaille, pour faire des économies à l'hôpital, comme c'est un hôpital général avec les services de psychiatrie, quand vous fermez en psychiatrie, vous pouvez prendre le personnel et le mettre dans un autre service. C'est une bonne économie. Donc ils ont inventé ce qu'ils appellent des fermetures saisonnières. Il y a trois services, ils en ferment un entre Noël et Jour de l'An, et un pendant l'été. Alors on s'est interrogé, on s'est dit, on connaissait des pathologies saisonnières, comme la grippe ou la bronchiolite. En psychiatrie, on ne voit pas très bien la raison saisonnière qui font que les gens ont moins besoin d'être soignés entre Noël et Jour de l'An ou pendant les grandes vacances. Mais on nous a répondu, il se trouve que malheureusement c'est une psychiatre qui nous a répondu. Elle nous a répondu, mais pendant l'été, les photons soignent, les patients y vont mieux. Donc c'est pour ça qu'on ferme 20 lits. C'est complètement idiot, c'est comme le truc de Lafourcade, ça ressemble à rien. Mais c'est pour justifier des économies. On nous a dit aussi,
entre Noël et Jour de l'An, les patients ont vraiment envie d'être dans leur famille, c'est pour ça qu'on ferme. Oui, mais malheureusement, quand on travaille en psychiatrie, on sait que la période des fêtes est au contraire une période très délicate où il faut aider un certain nombre de patients à passer le cap, j'allais dire. C'est pour dire que tout un tas de discours qui nous sont présentés comme rationnels ne viennent que couvrir des pratiques pour se faire le chaînon des réductions budgétaires. Puisqu'on ne va pas discuter à l'infini sur les photons si c'était... c'est n'importe quoi. Mais pour, à chaque fois, demander qu'on soit les chaînons de tout ça, et je vais finir là-dessus, parce qu'ils nous demandent d'être les chaînons de ça. C'est-à-dire que les soignants, les médecins, les directeurs soient les chaînons pour refuser les soins, pour refuser de soigner. Et ça, à mon avis, c'est possible dans un état totalitaire. C'est-à-dire non seulement de demander à tout le monde d'exécuter, mais de chanter les louanges et de prendre à son compte la revendication d'une telle pratique qui est contraire à tout ce qu'on veut faire. Et on n'est pas dans un état totalitaire. Il y a encore des syndicats, il y a encore des associations, il y a encore des droits de se réunir, de tenir des forums comme aujourd'hui, d'avoir des publications. Je dirais qu'il y a encore la psychanalyse, sur un autre plan c'est aussi une chose importante. Et ce qui fait qu'il n'y a pas seulement la peur. Il y a parfois la peur. Ça joue sur chacun d'entre nous à tel ou tel moment. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a cette possibilité de se réunir et d'agir et de pouvoir dire non. Parce qu'évidemment, si c'est chacun pour soi, c'est difficile. Et je crois qu'ils ne parviendront pas à faire ce qu'ils veulent faire et qu'on a déjà des éléments de résistance à ce qu'ils veulent faire. La CME de la PHP de Paris, qui est le plus gros hôpital en France par la taille de son institution, là, il y a quelques semaines, a voté contre le budget. Alors, c'est pas énorme. Ils ont voté contre. Ils ne votent jamais contre. Et pourtant, là, les médecins ont dit c'est pas possible quand même. Là, on nous demande de faire. Je ressens ça comme ça, comme infirmier, comme cadre. Je pense qu'actuellement, chez les médecins, ça ne passe plus. Ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Ils l'ont fait parfois avec peut-être des illusions, je ne sais pas. Et à la fin, on leur demande... Ça va dans le mur. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une grève, je n'ai pas le temps de développer, il y a eu une grève au Rouvray qui a été importante au moment où ils ont demandé, sous une certaine forme, au personnel d'être polyvalent. Il y a eu une grève en septembre, qui s'est faite sur la défense du soin aussi. Et puis, dernier exemple que je donnerais, c'est dans mon hôpital, par rapport aux fermetures dites saisonnières, puisqu'on se trouvait avec 24 guérisons miraculeuses, à chaque fois, en 3 jours, 24 patients guérissaient, sortaient, etc. Et après des catastrophes, parce que les gens, ils n'étaient pas mieux, et il fallait. C'était assez compliqué. Au début, on a dit, on n'acceptera pas ça. On dira qu'on est contre, on n'acceptera pas ça. Je parle du syndicat. Et on était un peu tout seul. Parce que les médecins avaient tous accepté, parce que les collègues on leur avait donné leur congé, parce que, etc. Ça a duré 3 ans. La première année, on était un peu tout seul. La deuxième année, on a entendu plein de remarques des collègues qui disaient « Oui, quand même, c'est grave, on va à domicile chez les patients, ils vont mal, on ne peut même pas les réhospitaliser. On se retrouve avec, les chambres d'isolement qui sont occupées par des patients en lit supplémentaire, etc. » Ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, ben là, on vient de gagner. Ils ont arrêté de fermer temporairement, au moins pour Noël et Jour de l'An, parce que c'était unanime dans le personnel qu'on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Et la moitié des médecins, contre les médecins-chefs, ont dit c'est pas possible. Donc, moi, je vous dis ma conviction profonde, et j'arrête là-dessus, je crois qu'ils n'y arriveront pas, et nous ne serons pas leur chaînon, et nous continuerons à soigner.